Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo de ce soir, quel avenir pour les radios associatives? Une problématique qui nous agite chez nous à Campus, et ça tombe bien puisque l'Assemblée nationale s'est posé la même question à l'occasion d'un colloque organisé le 3 juin dernier. Pour y répondre, on reçoit celui qui est à l'initiative de l'événement, le député du Maine-et-Loire, Denis Masseglia. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du lundi 22 juin, alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le 3 juin dernier, l'Assemblée nationale organisait un colloque autour de l'avenir des radios associatives. Professionnels du secteur, syndicats et élus étaient rassemblés. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet événement s'inscrit dans un contexte où nos antennes s'inquiètent pour leur avenir. Depuis 2 ans de suite, le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui fait vivre la plupart de ces médias est menacé par d'importantes coupes. Alors pour faire le point sur ce qui s'est dit lors de ce colloque et pour réfléchir à la pérennité de Radio Campus, Radio G ou RCF et les autres, on reçoit Denis Masseglia. Bonsoir.
Bonsoir Simon.
Ah, vous êtes député Renaissance de la 5e circonscription du Maine-et-Loire et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce colloque. Alors justement, pourquoi avoir décidé de l'organiser ?
Alors merci pour votre question et merci pour votre invitation. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a 8 commissions permanentes, c'est la Constitution qui le veut et je suis moi membre de la Commission des Finances. Et comme vous le savez certainement, en Commission des Finances, il y a des rapporteurs spéciaux, c'est-à-dire des spécialistes de certains sujets. Et dans mon cas plutôt, je réalise un rapport et des travaux sur le parti budget livre, médias, industrie culturelle et audiovisuel public. C'est donc dans ce cadre-là où je suis moi-même en mission de regarder l'usage du fonds de soutien à l'expression radiophonique dont vous parlez. Et donc c'est dans ce cadre-là, ça fait 2 ans que je me bats pour garder les budgets, environ 36 millions d'euros. Et l'objectif était de préparer le prochain budget en rencontrant l'ensemble des acteurs qui font vivre les radios associatives pour réfléchir ensemble, mais également, et peut-être que vous avez posé la question, envoyer un courrier aux ministres concernés pour leur dire à quel point il est nécessaire de garder les financements nécessaires aux radios associatives sur l'ensemble de nos territoires.
Et alors pourquoi maintenant précisément, pour anticiper l'année prochaine, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas pu être fait plus tôt ?
Alors, on aurait pu le faire plus tôt dans l'agenda. Néanmoins, il me semblait qu'avant les vacances d'été, c'était le bon moment, puisque c'est à peu près à ce moment-là où l'Assemblée nationale, et plus précisément le gouvernement, plutôt que l'Assemblée nationale, travaille sur le budget, réfléchit et commence à définir quelle sera leur stratégie. Et donc, le but était de pouvoir réfléchir ensemble pour pouvoir après faire une synthèse au gouvernement en leur expliquant à quel point il est nécessaire de défendre les radios associatives.
Alors, je le disais en introduction, le nerf de la guerre, c'est ce fameux FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Pour le budget 2025, le gouvernement souhaitait une baisse de 33%, autant dire une condamnation à mort pour de nombreuses radios. Il y a eu mobilisation, un FSER a été sauvé, tout ça pour qu'une baisse de 44% soit proposée pour le budget 2026. Pourquoi cet acharnement alors que le gouvernement semblait avoir compris l'année dernière l'utilité de ce fonds ? Pourquoi est-ce que finalement... Pour cette année, on rechange d'avis.
Alors, moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, je suis député. Le gouvernement, c'est l'exécutif et de mon côté, je suis le législatif. Et donc, il faudrait poser la question aux ministres concernés de pourquoi ils ont décidé d'orienter l'ensemble des baisses prévues dans le budget livre, médias, industrie culturelle sur la partie FSER. Si je vous donnais ma lecture, c'est que le ministère de la Culture s'est dit on va flécher l'ensemble des budgets sur ce fonds-là. Comme ça, les radios associatives, qui sont à peu près 700 à l'échelle nationale, vont réagir et vont accompagner les députés à demander au gouvernement de revenir en arrière.
Bon, c'est vraiment que c'était pour provoquer les radios associatives qu'on a voulu baisser ?
Je ne dis pas que c'est pour provoquer les radios associatives. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comme dit Agatha Jones. Ce que je veux dire, c'est que la stratégie portée certainement par le ministère de la Culture est de trouver l'axe le plus adéquat pour éviter d'avoir à réduire son budget.
Mais donc, ça veut dire que si ça n'avait pas pu aboutir... elles auraient condamné les radios sans vouloir vraiment les condamner.
Je pense qu'elles savaient que ça allait avoir gain de cause. Rappelons néanmoins que le fonds de soutien à l'expression radiophonique dont vous parlez est un budget extrêmement important des radios associatives. Je ne sais pas c'est quel pourcentage de votre budget ici, mais en moyenne, c'est entre 40 et 60% du budget des radios associatives. Donc sans ce fonds, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt la fin des radios associatives ou moins une réduction de façon drastique du nombre de radios associatives sur l'ensemble du territoire national.
Alors vous, à titre personnel, on l'a dit, vous avez pris la défense de ces radios associatives, mais est-ce que leur sauvegarde est vraiment quelque chose qui tient à cœur au camp présidentiel, de par cette baisse qui interroge quand même, est-ce que vous trouvez vraiment du soutien autour de vous ?
Ben, s'il n'y avait pas eu de soutien, nous n'aurions pas réussi à garder les crédits. J'ai aucun doute sur le fait que et le gouvernement et le Parlement, l'Assemblée nationale, souhaitent garder ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. Après, vous savez, ce sont des petites stratégies politiques, malheureusement, mais force est de constater que depuis 2 ans, les crédits assujettis, les crédits alloués aux radios associatives seront au même niveau.
Alors, au même niveau, mais est-ce que même une augmentation peut être envisageable ? Parce que malgré tout, certes, les radios associatives continuent de réussir à vivre grâce à ce FSER qui est maintenu, mais on est toutes et tous dans des salaires souvent assez précaires, parfois sur des temps qui ne sont pas complets. Est-ce que c'est peut-être manquer d'ambition que de simplement les garder à niveau ?
Alors moi je suis prêt à échanger avec vous de la manière dont on peut augmenter le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Par contre, avant, ce que je peux vous proposer, qu'on travaille sur les 150 milliards d'euros nécessaires pour équilibrer le budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique extrêmement difficile. Déjà, garder le fonds de soutien à l'expression radiophonique au niveau des années précédentes est quelque part quelque chose de positif. Lorsque vous regardez un autre fonds, le FSDP, le fonds de soutien au développement de la presse, celui-ci s'est trouvé quand même assez amputé et pourtant la presse écrite, elle aussi souffre. Aujourd'hui, l'ensemble des médias de communication sont en difficulté et peut-être que l'un des axes dans l'avenir serait de trouver d'autres financements et là-dessus, on a peut-être un travail à mener collectivement sur la mise en place de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un droit voisin, c'est-à-dire un financement des géants du numérique qui utilisent ce que vous réalisez pour alimenter l'intelligence artificielle. Ça peut être un axe de travail.
Alors ça, on peut entendre la question de l'économie nécessaire, mais c'est vrai que le FSER, il est extrêmement important pour les radios associatives, mais en termes de dépenses de l'État, il reste quand même assez faible. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ne serait-ce que l'augmenter un tout petit peu ou à chaque fois de devoir se battre pour le garder à niveau ? On est à peu près sur, c'était 15 millions, hein, c'est ça, d'économies qui auraient été faites ?
À peu près 15 millions, le fonds... Enfin,
ce qui ne représente pas grand-chose.
Le FSER, c'est... Alors pas grand-chose, si vous avez 15 millions à me donner, moi je suis preneur.
Non mais par rapport à l'échelle de
budget mais de l'État. Vous savez, le budget de l'État, les dépenses, c'est des milliers et des milliers de lignes. Et chacun dans sa ligne exprime de façon légitime que sa dépense n'est pas grand-chose. Et mis bout à bout, c'est 150 milliards d'euros de déficit que nous avons. Donc, je pense que déjà garder les crédits alors que d'autres crédits baissent me semble être déjà une action positive. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je vais bien sûr m'engager pour le prochain budget.
Alors justement, votre engagement pour les radios associatives, vous l'avez déjà démontré. Si vous n'aviez pas réussi à retirer cette coupe du FSR, alors on fait un peu de politique fiction, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir votre avis là-dessus. Si vous n'aviez pas réussi à retirer cette coupe du FSR, est-ce que vous auriez quand même défendu le budget et voté ce budget ?
Ben en fait, personne n'a voté le budget.
S'il avait pu être voté, bien sûr.
Mais je vous rappelle que sur l'ensemble des budgets concernés, il y a eu une décision 49 alinéa 3.
Oui.
Et que le gouvernement a décidé de garder dans le 49-3, le 49 alinéa 3, les propositions que nous avons faites sur le maintien du FSER. D'où mon argument que le gouvernement aujourd'hui n'est pas opposé au FSER. Et je pense que c'est plutôt au FSER. Maintenant, faire de la politique et faire un budget est un consensus, un compromis. Et de toute façon, on a besoin d'un budget pour l'État. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, une majorité de députés souhaitent garder le FSER, puisqu'à chaque fois, j'ai réussi à faire passer et voter mes amendements.
Alors, entre radios associatives, on fait souvent la blague de se dire que l'année prochaine, on proposera une baisse de 55% du FSER. On en rigole, mais qu'est-ce qui peut nous garantir que ce ne sera pas encore le cas ?
Ben, je rappelle, et c'est important de le rappeler, que la Constitution dit que le budget est annuel. Et que donc chaque année, le Parlement, de manière souveraine, détermine les crédits pour faire tourner notre pays. Si demain, une majorité de députés souhaitait réduire le fonds de soutien à l'expression radiophonique, alors la conséquence sera sa baisse. Maintenant, jusqu'à présent, je n'ai pas vu chez mes collègues députés, qu'ils soient de mon groupe ou d'autres groupes, être dans l'idée de vouloir réduire ce fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Donc même si le gouvernement propose une baisse, on peut rester optimiste sur le fait que les députés ne voudront pas de cette baisse.
Je considère aujourd'hui des échanges que j'ai que et le gouvernement et l'Assemblée nationale ne souhaitent pas de cette baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Alors les radios associatives, elles doivent aussi faire face aux attaques de leur liberté éditoriale. En 2025, Philippe Ballard, député RN, estimait que des radios peuvent tenir à l'antenne des propos hors du champ républicain et qu'il serait nécessaire de faire le tri et d'attribuer les subventions sur des critères plus solides. Et à cette déclaration, la ministre de la Culture de l'époque, Rachida Dati, avait partiellement acquiescé, se disant favorable à des critères de contrôle. Comment est-ce qu'on peut protéger aujourd'hui cette liberté éditoriale, sachant que ces fameux propos hors du champ républicain, ils vont pas tous être interprétés comme hors du champ républicain selon aussi le camp. On imagine que Philippe Ballard n'a pas la même définition des propos hors du champ républicain.
On est dans un état de droit, et dans un état de droit, ce qui détermine ce qui peut être dit ou pas dit, c'est pas Philippe Ballard ou Denis Massiglia ou même vous Simon, c'est la loi. Reste à savoir si les propos étaient dans le cadre de la loi ou pas dans le cadre de la loi. Et si c'est dans le cadre de la loi, ben, circulaire à un avant.
Et lui, il parle de champ républicain, pas forcément de la loi. C'est assez subjectif.
La loi, seulement la loi, uniquement la loi. Toujours. Toujours. On ne peut pas avoir une vision différente de la loi en fonction de son obédience politique. Maintenant, je rappelle, et c'est aussi extrêmement important, que pour bénéficier du fonds de soutien à l'expression radiophonique, il y a un cahier des charges. J'imagine que Radio Campus a lui-même envoyé un cahier des charges expliquant ce qu'elle mettait sur l'antenne et comment elle fonctionnait. Et donc, il suffit de suivre le cahier des charges tel que défini, le cadre de la loi. Et demain, si telle ou telle radio ne respecte pas la loi, je fais confiance aux auditeurs qui sont choqués de porter plainte et la justice prendra les décisions qu'il faut prendre.
Mais si je reprends la citation, parce que lui parle surtout de champ républicain, c'est une notion où chacun y met un peu ce qu'elle veut. Les radios associatives, comme toute association, elles sont soumises à la charte d'engagement républicain. Mais cette charte, elle est souvent assez critiquée par les associations parce que elle est un peu floue et un peu vague. Et les associations peuvent être attaquées sur la base uniquement d'interprétation. Comment on fait pour protéger les associations et les radios associatives de ces attaques qui peuvent parfois mettre à mal certains financements?
Mais c'est quoi une attaque? C'est une remarque d'une personnalité politique qui exprime son désaccord.
Mais qui peut avoir des conséquences. Plusieurs associations ont perdu des financements de par des reproches qui ont été faits.
Non, elles n'ont pas perdu leur financement de la part des reproches qu'elles leur ont été faits. C'est est-ce qu'elles étaient conformes aux règles pour bénéficier du FSER, d'une part.
Je parle des associations au sens large, pas uniquement des radios associatives.
D'accord.
Je prends l'exemple de la Ligue de l'enseignement, par exemple, en Île-de-France, qui avait perdu une subvention de la région Île-de-France suite à une attaque d'élus par rapport à des propos qui avaient été tenus par des participants à un concours d'éloquence.
Mais moi, je ne suis pas porte-parole de la présidente.
Non, mais d'où ma question, comment on fait pour protéger les associations et les radios associatives
mais
de ce genre
Encore une fois, la loi, uniquement la loi, simplement la loi. Maintenant, si des responsables politiques, dans le cadre de leur fonction, déterminent que telle ou telle association ne doit plus avoir le financement, ben, je dirais, ils ont été élus. Et libre à chacun et à chacune, demain, de dire que telle ou telle personne ne partage pas sa vision de la société et de les remplacer aux prochaines échéances électorales. Mais ils sont légitimes de par le fait qu'ils ont été choisis par les habitants d'un territoire. Même si ce qu'ils font parfois peuvent nous déranger. Mais la démocratie, c'est l'acceptation du fait majoritaire.
Alors, les radios associatives, elles ont bel et bien conscience que leur pérennité est fragile. Et justement, une des parties du colloque était consacrée aux conditions de pérennité de ces radios associatives. C'est quoi les grandes lignes qui en sont sorties?
Et vous savez, la ligne principale qui est sortie, c'est nous avons besoin d'un financement stable et pérenne. Stable, c'est à minima le même montant. Pérenne, c'est avec une visibilité sur plusieurs années. Sur le stable, la Constitution ne nous le permet pas. Le pérenne, la Constitution ne nous le permet pas. Donc chaque année, à moins qu'on change le fonctionnement de la République, chaque année, le sujet du financement des radios associatives se mettra sur la table. Mais comme c'est le cas sur l'intégralité des dépenses de l'État ainsi que des recettes.
On continue de parler de l'avenir des radios associatives avec Denis Massiglia, député du Maine-et-Loire. Mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Hildegarde, c'est de la Synthwave et elles ont joué dernièrement sur la scène du Nid du Héron. Le morceau s'appelle Birthday Girl. À tout de suite dans le pédalo.
Mmh.
C'était Birthday Girl de Hildegarde. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo et on est avec Denis Masseglia, député de la 5e circonscription du Maine-et-Loire, pour parler du colloque consacré aux radios associatives qu'il a organisé à l'Assemblée le 3 juin dernier. Alors pendant cette réunion, vous avez rappelé que le budget annuel est un principe constitutionnel et que donc chaque année, toutes les dépenses de l'État sont étudiées. Ça inclut donc le FSER, on en parlait tout à l'heure. Mais donc ça veut dire que pour le moment, le FSER n'est pas considéré comme... complètement utile, qu'il faut le fait qu'il faille le re-questionner chaque année et qu'à chaque fois il est remis en question, ça veut dire que son utilité n'est pas encore complètement prouvée à 100% et complètement actée.
Mais tout est rediscuté chaque année. Dans le budget, on revoit
le fait que chaque année, depuis deux ans, il soit remis en question.
Mais c'est le cas sur plein d'autres sujets. Moi, j'aimerais par exemple que le crédit d'impôt international qui permet de faire des films étrangers en France et qui finance aussi les mignons ne soit pas borné, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de le rediscuter. J'aimerais que le crédit d'impôt aux jeux vidéo soit pérennisé dans le temps. En fait, toutes ces dépenses-là, toutes quelles qu'elles soient, sont rediscutées chaque année. On appelle ça le projet de loi de finances. Ça nous prend 4 mois et pendant 4 mois dans l'année, nous rediscutons chaque année des mêmes dépenses pour s'assurer s'il faut les garder ou pas.
Alors la députée socialiste Fatia Kalwa-Hachi a dénoncé le fait que, enfin a dénoncé lors de ce colloque, que le budget et les orientations du projet de loi de finances sont faites par Bercy et par des ministères qui ne sont pas les gens concernés. Est-ce que le fond du problème n'est pas de repenser complètement le fonctionnement du PLF et de donner plus de pouvoir aux parlementaires sur les décisions, les premières décisions on va dire?
Mais le Parlement a une capacité de décision qui est majeure.
Mais je veux dire, dès le début, ça...
Je rappelle de façon assez basique, parce que parfois, certaines personnes réécrivent la Constitution. L'exécutif propose le budget, le Parlement le valide. C'est l'Assemblée nationale qui décide, oui ou non, des dépenses budgétaires de la nation. Et dans le cadre d'un 49-3, c'est également le Parlement qui décide si, oui ou non, il veut que le budget soit mis en œuvre. Parce que si on veut pas qu'il soit mis en œuvre, eh bien on censure le gouvernement. On l'a déjà vu par le passé. Donc à la fin des fins, c'est toujours le Parlement qui décide. À la fin des fins, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et se dire, c'est pas nous, c'est l'exécutif, me semble un raccourci rapide. Je rappelle que Fatia Kilwa-Aishi, elle a voté pour la censure, je crois de mémoire, mais que beaucoup de ses collègues socialistes ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils se disaient que le budget était... avec quelques petits défauts, mais finalement, n'était pas si mal que ça. Sinon, ils auraient censuré le gouvernement.
Mais le fait que... On a eu une première fois où les parlementaires ont alerté sur l'utilité du FSER. Donc, que derrière, ce soit encore de nouvelles personnes qui ne sont pas les parlementaires qui arrivent à la conclusion qu'il faut encore baisser le FSER, est-ce que ça ne pose pas question, justement, sur, même si à la fin, c'est le Parlement qui décide, sur le vrai pouvoir, entre guillemets, du Parlement auprès de celles et ceux qui font cette première proposition?
C'est une proposition qui était dans le budget initial, c'est une proposition qui n'est pas dans le budget final. On voit bien qu'à la fin des fins, encore une fois, c'est les députés. Et sur un autre sujet, moi je me suis beaucoup battu pour le financement de l'aide publique qui a subi, lui, une baisse de budget de l'ordre de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Eh bien, j'ai pas eu gain de cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une majorité de collègues députés qui ont voté avec moi. Je le regrette, je le constate.
Alors, par rapport au prochain projet de loi de finances, vous avez déclaré lors de ce colloque que, dans tous les cas, les radios associatives devront une fois encore démontrer leur utilité et leur importance. Je vais parler un peu crûment, mais est-ce qu'on a vraiment que ça à faire tout le temps? Est-ce que c'est à nous de passer notre temps à justifier notre utilité? Et aux syndicats de devoir à chaque fois aller au front pour prouver l'utilité des radios associatives?
Enfin, je le rappelle quand même de manière assez brute et je m'excuse de mes propos. Les 35,7 millions d'euros qui sont sur la table pour les radios associatives, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de l'intégralité des Français. Nous, en tant que parlementaires, on doit s'assurer du bon usage des deniers publics. Il y a des gens qui payent des impôts, qui travaillent dur, qui payent des impôts pour pouvoir financer le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est tout à fait normal que vous, association, expliquez comment vous utilisez l'argent du contribuable. Parce que sinon, on commencerait à donner de l'argent aux associations sans avoir de contrôle sur l'action qui est menée. Enfin, c'est l'argent du contribuable, on doit le dépenser avec beaucoup d'attention. Qui plus est, il est extrêmement rare en ce moment.
Bien sûr, mais nous, en tant que radio, on remplit ce dossier FSER qui est très lourd. Pourquoi est-ce que le fait que le FSER valide qu'on mérite des financements n'est pas déjà suffisant pour prouver notre utilité?
Mais il faut expliquer aux députés pourquoi vous êtes encore utile et pourquoi il faut continuer à vous financer. Alors, dans le cadre de mes travaux, dans le rapport que je réalise chaque année, je mets en avant, bien sûr, ce qu'apportent les radios associatives sur le territoire pour la démocratie et pour la transmission de l'information. Je suis un convaincu. Mais il y a 577 députés. Il faut que 576 soient d'accord avec vous. Moi, je veux bien prendre mon bâton de pèlerin pour expliquer que tel et tel dispositif est important, mais il y a 700 radios associatives en France. À vous d'aller voir vos parlementaires, vos députés, et présenter ce que vous faites. Et je reste persuadé que si toutes les radios associatives accueillaient dans leurs locaux des députés pour présenter ce que vous réalisez au quotidien, alors il n'y aura aucune difficulté à garder le fonds de soutien à Expression Radiophonique. Mais vous ne pouvez pas dire, nous on a rempli un petit papier, un petit document qui explique
ce qu'on fait bien. C'est pas un petit document, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, et c'est difficile, une fois qu'on a rempli ça, de ensuite devoir rebatailler pour prouver l'utilité du FSER.
C'est pas rebatailler, c'est présenter aux personnes qui votent le budget de l'État l'action que vous menez au quotidien pour qu'ils disent « oui, les radios associatives sont extrêmement utiles sur le territoire ». Je le crois, personnellement. Mais pas tous mes collègues ont connaissance de ce que vous faites au quotidien. Et donc, vous avez, vous, la mission de présenter à ceux qui votent le budget ce que vous faites. Mais quand je dis ça, c'est pareil pour l'ensemble des entités. Enfin, peut-être que vous avez des soutiens de la ville d'Angers. Je ne sais pas si la commune ou l'agglomération vous apporte des financements. Chaque année, vous devez expliquer aux entités concernées à quoi sert l'argent qui vous est versé. C'est de l'argent du contribuable. Chaque euro dépensé de l'argent du contribuable doit être contrôlé et dépensé le plus juste possible. Je rappelle, il y a 150 milliards d'euros d'économies à faire pour équilibrer le budget de la nation. Donc il va falloir qu'on prenne des choix difficiles, compliqués. Moi, je considère que les radios associatives doivent être dans un financement pérenne et stable, mais il va falloir faire des choix. Donc chacun va devoir présenter devant les Françaises et les Français, c'est même pas moi, devant les Françaises et les Français, de pourquoi il est nécessaire de continuer à investir dedans.
Mais ça fait 2 ans de suite que les radios tremblent justement parce qu'on propose cette baisse du FSER. C'est aussi, encore une fois, je sais que ça peut paraître dérisoire pour certaines personnes, mais c'est quand même des emplois qui sont en jeu, des personnes qui ont peur pour la survie de leur métier, tout simplement. Là encore, c'est pas forcément la même chose que juste dire chaque année on est utile, que là devoir se présenter et dire non, ne supprimez pas, sinon on va mourir. Enfin, c'est quand même 2 choses différentes.
Aujourd'hui, il y a un dispositif en France qui s'appelle le crédit d'impôt international, qui fait partie d'une des briques de l'animation. L'animation, c'est 9000 emplois en France à l'heure actuelle. C'était 10 000, il y a eu pas mal de pertes d'emplois, c'est passé à 9000. On a voté le fait de garder les dispositifs fiscaux lors du dernier budget. Il y avait donc 9000 personnes qui étaient aussi en angoisse de l'avenir qui était donné à ce financement-là.
Ça ne change pas la problématique. On a compris que tout le monde était en angoisse et en difficulté, mais c'est bien ça le problème, justement.
Mais, excusez-moi, c'est quoi votre proposition? C'est quoi votre préconisation? C'est-à-dire qu'on dise, ben voilà, on va augmenter tous les budgets de dépenses de l'État de 10% chaque année, ad vitam aeternam, avec un déficit de 150 milliards d'euros, avec un intérêt de la dette qui coûte 80 milliards d'euros? Aujourd'hui, l'argent est rare. Il faut faire très attention. On doit contrôler toutes les dépenses. Et à l'heure actuelle où des économies sont faites, le fonds de soutien à l'expression radiophonique est conservé à l'euro constant. Je peux comprendre que dans la situation actuelle, vous soyez inquiet. Je ne peux que vous encourager à bien entendu mettre en avant ce que vous apportez, qui est extrêmement important pour les territoires, pour la démocratie. Mais voilà, c'est le rôle du Parlement chaque année de vérifier les presque 3 milliards d'euros de dépenses de l'État.
Alors aujourd'hui en plus...
3 000 milliards, excusez-moi.
Oui. Aujourd'hui en plus, la concentration des médias, on le sait, c'est un sujet qui est important, qui touche beaucoup de personnes. Quelque part, les radios associatives peuvent aussi apparaître comme des derniers espaces qui permettent, de faire entendre des associations, des voix qu'on n'entendrait pas forcément sur d'autres gros médias. Est-ce que justement, comment est-ce qu'on peut défendre concrètement ces espaces de liberté pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément la parole ailleurs de l'avoir quelque part?
Mais est-ce que les radios associatives aujourd'hui sont attaquées?
Bah, elles ont moins de moyens.
Bah, où est-ce qu'elles ont moins de moyens?
Elle manque de moyens.
À quel manque de moyens? Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'État se désengage du soutien du financement des radios associatives. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous voulez, on va regarder dans d'autres domaines d'activité où l'État a fait des choix compliqués et où il a réduit les dotations. Mais les radios associatives, aujourd'hui en France, ont un financement stable depuis de nombreuses années. Et je dis financement stable depuis 2 ans, mais les années précédentes, elles avaient un financement qui augmentait. Donc là-dessus, moi, j'entends vos arguments qui consistent à dire on a besoin de continuer à exister. Et la nation, la France a besoin que vous continuiez à exister. Là n'est pas du tout un sujet, n'est pas, je ne suis pas en désaccord avec vous, mais de dire qu'il y a un désengagement de l'État...
Je n'ai pas parlé de désengagement. Voilà. J'ai dit qu'on a des difficultés et qu'aujourd'hui, on ne ressent pas de réponse concrète.
La réponse concrète que vous avez, c'est une stabilité dans les dotations qui sont les vôtres. Et ce que je peux vous dire, dans l'ensemble des sujets sur lesquels je travaille, la presse, ça a baissé. L'audio et le public, ça a baissé. Vous, c'est stable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre. Moi, je veux me battre avec vous. Je veux me battre avec vous pour continuer à travailler pour que les radios associatives puissent continuer. Mais néanmoins, ce que je veux faire passer comme message, c'est que les radios associatives, aujourd'hui, ont des dotations et un accompagnement de l'État qui est stable dans le temps. Continuons à travailler collectivement sur cet axe-là. Vraiment, il faut qu'on travaille les politiques et les radios associatives ensemble. Mais de là à dire qu'aujourd'hui, ça devient quelque part pour vous presque la fin, je pense que ce n'est pas le cas. Et j'espère qu'on aura la discussion encore pendant de nombreuses années là-dessus.
Tant qu'on est encore là, on espère. Pour rester sur l'utilité des radios associatives, l'autre temps fort de ce colloque, c'est la partie consacrée à la thématique suivante. Les radios associatives, acteurs utiles à la vie démocratique des territoires, pardon, c'est ce qu'on a un peu commencé à développer ici. Là aussi, c'est quoi les grandes lignes qui en sont sorties?
Ce qui a été dit... et quelque part, ça reprend à peu près les propos qui étaient les vôtres précédemment. C'est qu'il y a aujourd'hui des territoires où la presse est parfois, quand je dis presse, je parle de presse papier, est parfois un peu moins présente. Et clairement, il est nécessaire, et on le voit de façon très claire, que les fake news apparaissent dans des territoires où l'information de proximité disparaisse. Et donc, il est nécessaire, si on veut continuer dans un moment où on a quand même de plus en plus de fake news qui sont colportées, le tout alimenté par l'intelligence artificielle et par des puissances étrangères qui ne nous veulent pas du bien. Il est nécessaire de pouvoir garder sur nos territoires des financements pour alimenter des radios associatives, pour qu'elles puissent continuer à rémunérer les personnes qui créent, qui présentent et qui mettent en avant l'information locale et même parfois nationale.
Et c'est important aussi de rappeler que les radios associatives ne sont pas juste des médias de diffusion, parce qu'elles sont aussi des porte-voix de paroles citoyennes, elles sont aussi actrices d'éducation média, elles sont aussi des radio-écoles. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça au grand public et aussi aux décideurs, qu'ils soient gouvernementaux ou parlementaires?
Les décideurs en ont conscience. Vraiment en ont conscience. Et c'est pour ça que les décideurs politiques soutiennent le fonds de soutien à l'expression radiophonique et qu'il n'y a pas de sujet pour le supprimer. Maintenant, je dirais que c'est à chacun et à chacune au quotidien, chacun et chacune des personnes qui travaillent dans les radios associatives, mais aussi des politiques, d'aborder le sujet, d'en parler, de le présenter à l'ensemble de nos concitoyens. Mais je souhaite affirmer qu'aujourd'hui, je ne connais pas de député qui exprime une velléité négative aux radios associatives, quel que soit leur bord politique, même si certaines, parfois, sont assez éloignées de mes convictions politiques.
Merci beaucoup, Denis Masséglia, d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes député du Maine-et-Loire à l'origine du colloque parlementaire consacré aux radios associatives. Bonne soirée.
Merci à vous.
Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mathias, à la technique. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.